Avis en nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio où les micros s'animent et où les échanges prennent vie à chaque instant. En direct jusqu'à 16h30 depuis notre studio. Et oui, on a pris de nouveau nos marques depuis le studio de Pavillon Nomade. Ils annonçaient de la pluie aujourd'hui, du vent, de la tempête. La météo n'est pas aussi juste que ça que Météo Suisse le dit. Mais ça fait du bien de se retrouver autour de cette table. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir nos participants du jour. On a Nicole, on a Suzanne, on a Gaël, on a Elvio, on a Jean-Pierre, on a Sylvie, on a Shadia, on a Joao, on a Joël aussi, Nicole, j'ai dit Gabriel, et à la technique, on a Loïse, et on a aussi David qui est là, et on va accueillir aussi autour de la table tant qu'on lui fasse un petit espace et qu'on l'équipe aussi de son prénom, comme ça on va pouvoir l'accueillir aussi. D'ailleurs, rappelez-moi votre... j'ai pas entendu. Voilà, Carmen qui est là et qui va se joindre à nous pour l'émission. Ça fait plaisir de la voir ici. Aujourd'hui, au programme de cet après-midi, on va passer par Ouverture Créative, chronique proposée par Jean-Pierre, la fabuleuse et iconique Minute d'Elvio. Bonjour Elvio, ça fait plaisir de vous voir.
Mais bonjour Jimmy.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
On passera par un thème pas le moindre, vu qu'aujourd'hui, le 20 août, c'est la rentrée scolaire. Donc, on va faire un petit échange sur retour à l'école. Et on aura direct derrière Jo, les bons tuyaux. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'elle aura peut-être des tuyaux aussi en lien avec ce thème-là. Bonjour, Joël.
Bonjour, Jimmy.
Et on terminera avec Science Fiction, proposé par Gabriel. Bonjour, Gabriel.
Bonjour, tout le monde.
Alors, je suis content de tous vous accueillir ici autour de cette table. Il fait un petit peu chaud, mais ça va, on va s'en accommoder. Hein. Il fait quand même moins chaud que les derniers jours, donc c'est déjà pas plein mal. Allez, place à Ouverture Créative.
Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler du complotisme, d'Internet, des réseaux sociaux et de toutes ces sources d'informations qui sont devenues difficiles à hiérarchiser. En effet, discriminer le vrai du faux est devenu un vrai challenge quotidien. Pour y arriver, nous avons besoin de développer l'esprit critique. Je vous propose aujourd'hui une méthode en trois points pour développer notre esprit critique. En premier lieu, il est nécessaire de se poser des questions, être prêt à se demander pourquoi je crois ceci, comment je le sais, d'où vient l'information, quelle en est la source. En gros, comment je sais ce que je sais et pourquoi je crois ce que je crois. Prendre du recul sur soi, être prêt à revoir sa vision, sa compréhension du monde. En deuxième, se rappeler que notre cerveau est biaisé par toutes sortes de biais cognitifs et un des principaux biais est le biais de confirmation qui nous pousse à croire ce qui nous arrange, ce qui nous pousse à garder notre vision du monde. Je reviendrai sur cet aspect dans une autre rubrique. Le troisième point dont il faut se méfier est l'effet d'autorité. Croire une chose vraie parce qu'une personne célèbre ou importante vous le dit n'est pas une méthode fiable. Nous avons pu constater ce phénomène lors de l'épidémie de Covid où certains médecins ou philosophes se sont mis en avant en donnant leurs avis. Justement, à propos d'avis, nous sommes souvent tentés de donner le nôtre à propos de bien des choses qui nous paraissent étonnantes ou intéressantes. Mais nous devrions nous méfier et réfléchir en prenant du recul après avoir vérifié les informations sur lesquelles nous avons un avis. De même, lorsque nous voulons partager une information, c'est tellement facile de cliquer sur « partager ». Encore une fois, quelles sont les ressources, qui l'a dit et dans quel contexte ? C'est d'une importance capitale, je dirais même vitale aujourd'hui, de discriminer les vraies informations des fausses, car pour certains, c'est ou ça a été une question de vie ou de mort. Lorsqu'on parle de fausses sciences, par exemple, et de prétendues thérapies qui sont censées faire du bien aux gens, nous avons tout intérêt, dans ce cas, à être certains de la source, c'est-à-dire de la personne qui le dit, pourquoi elle le dit et dans quel contexte, encore une fois. Vous remarquerez que souvent, il y a un intérêt financier derrière des informations fallacieuses, trompeuses, et que non seulement nous allons perdre notre argent, mais aussi notre temps et peut-être la vie. Avec cette méthode, nous éviterons la manipulation, nous allons repérer les pièges, les stéréotypes, les fausses sciences, mais aussi nous ferons de meilleurs choix dans notre vie, nous ferons des choix plus éclairés. En gros, nous serons plus libres et plus autonomes pour comprendre le monde. Nous aurons vu aujourd'hui trois points importants de la méthode. Premièrement, se poser des questions, être prêt à remettre en question notre vision du monde. Deuxièmement, être conscient des travers de notre cerveau, comme le biais de confirmation. Troisièmement, se méfier de l'effet d'autorité.
Eh ben, merci beaucoup pour cette rubrique Ouverture Créative. Alors, il faut avoir l'esprit ouvert hein, quand même, hein, Elvio. Quand on entend un petit peu ce que Jean-Pierre nous a dit, croyance, mysticisme, faux, pas vrai.
Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, il existe pléthore maintenant de débunkers. Je ne sais pas si vous comprenez le terme.
Hein. Donc, alors, je ne sais pas autour de la table, est-ce que vous connaissez ce que veut dire le terme débunker ? Non, alors Elvio, vous allez nous faire un petit raccourci rapide.
Alors ce sont des personnes, je vais prendre juste l'exemple d'AstronoGeek par exemple, c'est un des debunkers, c'est-à-dire qu'il bon, il explique l'astronomie, il explique ces choses-là, et il explique aussi quand des influenceurs ou des youtubeurs s'inventent connaisseurs de ce genre de choses. Par exemple, ils ont fait avec plusieurs debunkers, on va dire, des crop circles. Je ne sais pas si vous connaissez le crop circle. Et ils se sont donné un défi en une nuit d'en faire un dans un champ assez réputé, dans une région réputée et tout ça. Et ils ont, c'est sur 3 phases en fait sur YouTube. Chaque phase dure à peu près 50 minutes, et ils ont fait venir, enfin les gens sont venus naturellement, et on peut voir le nombre de personnes. D'abord ils ont fait eux venir un expert du CNRS pour analyser la chose, et lui il a tout de suite débunké en disant non, on voit très bien que ça a été fait par des humains. Et et là on voit après 2 bonnes heures de personnes pseudo scientifiques, pseudo chamanes, pseudo tout ce qu'on veut, voilà, pendules et tout ça, qui disent ah ouais, alors c'est un vrai, c'est vraiment, il y a vraiment, ils ont atterri là, on sent les énergies, on sent les trucs, et puis ils ont attiré plein de gens pour faire des rituels et tout ça. Donc voilà, donc le debunking en gros c'est des personnes qui prouvent sans forcément critiquer, mais par méthode scientifique que les choses souvent sont faites par des charlatans.
Oui, ouais. Alors attention aux charlatans. Alors je ne sais pas autour de la table s'il y a des gens qui ont envie de rebondir sur ce sujet-là. Jean-Pierre, vous avez envie peut-être de compléter ce que Elvio nous a dit, ou est-ce que quelqu'un d'autre autour de la table a envie de finalement aussi donner sa position sur le thème qui nous a été proposé?
Bah, moi, il y a 15 ans, j'étais très, on va dire, perturbé par la révélation des pyramides qui m'a pris la tête pendant un sacré moment. Et ça a été entièrement, débunké, comme quoi que c'était des fausses informations. Celui qui a fait ce reportage s'est fait beaucoup d'argent. Il a vendu ça à des chaînes de télévision. Ça a été repris. Mais en fait, c'était que des bêtises, en fait. Mais ça m'a pris des années, hein, vraiment, pour comprendre tout ce qu'il y avait derrière. Puis maintenant, je ne suis pas devenu spécialiste en pyramidologie, mais presque, à force de regarder justement les gens qui remettaient les spécialistes, des archéologues et autres, qui montraient vraiment qu'il n'y avait pas besoin d'extraterrestres, en fait, pour faire des pyramides, quoi, clairement.
Bah, c'est sûr. Suzanne.
Moi, personnellement, je pense qu'il faut avoir son propre jugement, tout simplement, et il sera le meilleur de tous, parce que pour soi, il faut savoir que on apprend toujours, toute la vie, et à un moment donné, on se dit, mais on ne sait pas, est-ce que je vois juste, est-ce que je vois faux? Mais c'est à soi de s'interroger. Ce n'est pas aux autres à les interroger. On n'a pas à interroger les autres. Les autres n'ont pas une science exacte. C'est notre science à nous qui est exacte. Voilà.
Ben merci pour ce complément. C'est vrai, moi je vous rejoins assez sur finalement, on doit apprendre à se faire confiance. Et quand on a un doute, le doute, ça nous met toujours un petit avertissement de se dire là, il y a un truc qui me paraît trop gros. Et puis d'aller chercher l'information auprès des professionnels, auprès de gens dont c'est le métier. Et puis on a aussi maintenant de plus en plus avec l'intelligence artificielle, bien sûr, hein, il y a du bon et du mauvais, hein, mais on a la possibilité aussi aujourd'hui d'aller sur des plateformes spécifiques, de dire tiens, est-ce que ça c'est quelque chose qui est réel ou faux, ou finalement est-ce que ça vient d'une source qui est fiable, et ça nous permet peut-être des fois d'éviter de se retrouver face à des sites qui pourraient être frauduleux ou à but lucratif, parce que derrière il y a souvent une histoire d'argent. Gaëlle. Bonjour Gaëlle.
Bonjour. Vous allez bien?
Bien, et vous-même, dites-nous.
Libre dans sa tête.
Être libre dans sa tête, oui, c'est vrai. Finalement, la chanson.
Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday. parce que là, on ne va pas pouvoir nous influencer, en tout cas, si on n'a pas de soucis qui viennent nous interroger sur des symptômes ou autre chose qui arrive, mais on est libre dans sa tête. Là, c'est en tout cas un endroit où on peut pouvoir se dire on est à l'abri, peut-être en tout cas, de malversations. Joël, vous aviez envie d'aborder sur ce sujet.
Oui, un peu comme Jean-Pierre, à une époque, j'ai lu le livre de Dan Brown, le Da Vinci Code. Et après, ça en est suivi, mais tellement... En fait, c'est un roman qu'il a écrit, ce bonhomme. Puis, ça en est suivi, mais des émissions, et pour comprendre de pourquoi, du comment, est-ce qu'on est... Enfin, des histoires, quand même, à dormir debout.
À dormir debout.
Le roman est magnifique. Après, j'ai lu Angers Démon et tout. J'aime beaucoup ce genre d'écriture. Mais après, il ne faut pas non plus se prendre la tête et de se poser la question si ça a réellement existé, si ces personnages, le crypto, machin, enfin, toutes ces choses-là, c'était pas tous les reportages qui s'en fait derrière ce roman, ça a pris la tête de pas mal de gens.
Ah bah oui. Mais je pense que derrière, il y a quand même, alors ça c'est mon positionnement, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de la recherche financière, pécuniaire. Hein. Rien n'est gratuit et on ne fait pas ça simplement pour rien. Si je prends l'exemple des pyramides, un exemple typique, on a eu, je ne sais pas si peut-être les plus jeunes, mais même pour autour de la table, on a aussi quelques aînés, ils connaissent très bien Maître Gims, le chanteur. Il y a eu une grande polémique il y a quelques mois, années en arrière, où il avait dit dans les journaux, lors d'un interview, que les pyramides, ils avaient mis au-dessus des pyramides, c'était un appareil pour faire de l'électricité entre les pyramides et ça générait de l'électricité. Et puis, on s'est aperçu 6 mois après, alors mes sources sont peut-être pas tout à fait justes en termes de temporalité, mais qu'il sortait un album et sur son album, il y avait ces fameuses pyramides avec l'électricité au-dessus. J'imagine que c'était certainement pour faire un buzz et vendre derrière quelques galettes en plus, mais j'imagine que souvent derrière, quand on cherche à mettre en place ces choses-là, c'est qu'il y a retour sur investissement et généralement on cherche soit des likes, soit des likes qui génèrent de l'argent. Mais je me dis qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, Gabriel.
Oui, alors je me rappelle la polémique, il avait affirmé comme il y avait de l'or sur les pyramides, c'est que c'était un truc électromagnétique, il y avait la radio, etc. Mais c'est juste pour dire, il y a une loi qui existe, bon, alors c'est pas une loi physique, mais c'est la loi de Brandolini qui explique que pour une bêtise qui est dite, il faut 10 fois plus d'énergie pour la contredire. Donc c'est un peu comme le dentifrice, c'est plus facile à faire sortir qu'à remettre dans le tube après.
Eh ben, on va finir sur cette belle, on pourrait dire cette phrase. Je ne vais pas l'intituler la phrase du jour, Gabriel, mais presque. Hein. On se quitte un court instant après cette magnifique chanson de Sting qui s'intitule « An Englishman in New York ».
My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
I'm an alien, I'm a legal alien. to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
La minute d'Elvio.
Je vais vous parler d'une BD de Nicolas Dumonteuil, Guenard le vampire. Guenard est un vampire pas tout à fait comme les autres. Originaire du monde des créatures de la nuit, il mène une existence pour le moins surprenante. Plutôt que de passer son éternité à terroriser les mortels, Guenard exerce un métier bien plus pacifique. Il est couturier. Mais être vampire et couturier n'est pas toujours simple. Entre les nuits blanches, les clients parfois mordants, les petites complications liées à sa nature vampirique, Guenard doit jongler avec un quotidien aussi drôle qu'absurde. Guenard imagine, découpe, assemble et retouche les vêtements avec une précision presque surnaturelle. Ces longues nuits lui permettent de travailler tranquillement lorsque tout le monde dort, et son sens du détail est digne d'un vampire qui ne laisse absolument rien au hasard. Après tout, quand on a plusieurs siècles devant soi, d'ailleurs il aime le dire « J'ai 36 ans depuis plus de 7 siècles, autant prendre le temps de faire de belles coutures ». Une bande dessinée pleine d'humour, Guenard le vampire joue avec les codes classiques du vampirisme pour les détourner avec une adaptation très belle époque. Ici, pas seulement de châteaux lugubres, de cercueils et de chauves-souris, on trouve un univers feutré avec un esthétisme de qualité, un personnage flegmatique et attachant, le tout dans une ambiance de coloration singulière et agréable. L'écriture nous plonge dans un humour décalé, absurde et légèrement satirique, avec des personnages tout aussi mordants. Guenard, c'est finalement l'histoire d'un vampire qui prouve qu'on peut avoir les crocs et quand même avoir du fil à retordre en tant que couturier. Guenard le vampire est imaginé par Nicolas Dumonteuil, qui en signe à la fois le scénario et le dessin, avec les couleurs d'Isabelle Merlet. L'album est publié chez les éditions Dupuis, dans la collection Air Libre, connue pour accueillir des œuvres de bande dessinée à un public plus adulte et privilégiant des univers graphiques et narratifs singuliers. Bonne lecture.
Merci. Merci beaucoup Elvio pour ce retour à la minute d'Elvio. Je ne sais pas autour de la table si quelqu'un connaît ce dessinateur ou a déjà vu une de ses BD. Alors on va faire un petit tour de table comme ça, nos auditeurs ne nous voient pas, mais est-ce qu'on a quelqu'un qui va oser lever la main ou qui connaît ? Non, non. Et alors est-ce que cette minute vous a donné envie d'aller découvrir ces volumes ? Alors Pas spécialement. Shadia. Bonjour Shadia.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous retrouver ici à Pavillon Nomade.
Non, j'ai dit possiblement. En soi, la lecture, c'est un bon moyen de s'échapper. Et puis, il parle d'art graphique, donc c'est souvent plus accessible.
Voilà, pour préciser, c'est vraiment un style roman graphique, très stylisé, vraiment très intéressant. Parce que autant la lecture est prenante que la coloration change après chaque mouvement, chaque chapitre, c'est très intéressant.
Ah bah alors on est très loin du Boulébile et de la BD classique. Alors je vois Carmen qui rigole. Carmen, bonjour. Déjà, merci d'être avec nous à Pavillon Nomade. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Carmen ?
Bonjour, je suis Carmen, médecin de l'hôpital. J'ai trouver un peu de temps pour participer à l'émission aujourd'hui.
Merci Carmen. Carmen, d'où venez-vous ? D'ailleurs, faisons un petit peu connaissance en quelques mots avant que vous nous racontiez peut-être votre première bande dessinée. D'où venez-vous ?
Moi, je viens du Cameroun. J'ai passé toute mes 25 premières années au Cameroun avant d'aller vers d'autres cieux. J'ai aussi assez voyagé dans plusieurs pays d'Afrique et aussi en France avant d'atterrir ici en Suisse. Pour ma première BD, je suis quelqu'un qui lisait beaucoup de BD, mais pas des BD franco-belges. Je suis plus du côté asiatique de la BD. Donc, mes premières BD, ouf. En fait, on avait des magazines, quand j'étais enfant, qui publiaient des BD assez éducatifs pour les enfants. Ça s'appelait Max et Gina. C'était des enfants qui vivaient leurs aventures. Et je pense que c'était les premières BD que j'ai eu à voir. Dans mes souvenirs aussi, il y avait Witch. Je ne sais pas si vous connaissez.
Non. Vous aviez quel âge à... Vous vous souvenez à quel âge vous avez découvert ces premières BD?
Ouf, c'était peut-être avant mes 10 ans, je ne peux pas savoir.
Ah ouais, donc ça remonte il y a longtemps. Elvio.
Oui, je voulais vous poser la question. Donc, Witch, je crois que je connais. Et vous aimez donc plutôt les mangas?
Oui,
c'est ça. Hein. Witch, en fait, c'est une petite sorcière qui intègre une école de sorcellerie. Enfin, mais...
Plus ou moins. C'est un groupe de filles, en fait. Witch, ce sont les initiales de chacune des filles. Dont l'héroïne s'appelle Will, c'est pour ça que c'est la première initiale de la BD. Mais ce sont des sorcières, oui, mais qui vivent aussi leur vie d'adolescente normale dans le monde normal.
Et vous avez quoi encore comme votre référence dans le style manga?
Dans le style manga, ouf, disons que je suis presque une encyclopédie dans ce style-là.
Mais... celui qui vous accroche le plus?
Bon, disons que sur la durée, c'est One Piece.
Ah bah, voilà.
Alors, je pense qu'autour de la table, on voit pas mal de sourires et des yeux qui pétillent. D'ailleurs, Shani, quand on a parlé de One Piece, bonjour Shani. Quand on a parlé de One Piece, j'ai vu votre sourire et les yeux comme ça, c'est se réveiller presque. Est-ce que vous connaissez bien One Piece? Comment s'appelle le nom du héros?
Alors non, je ne connais pas bien One Piece, parce que je suis plutôt dans la team Naruto. Mais
Deux ennemis jurés, parce que c'est la même... Même histoire.
Des shonen... qui sont très connus. Et puis
Alors là, il y a un terme que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, parce que je pense que autour de la table, ou même nos auditeurs et auditrices ne savent pas ce que c'est. C'est quoi un shonen?
Alors, si j'explique bien, sauf erreur, c'est une histoire où on suit un héros principal qui évolue au fil du temps, et puis tout est basé sur sa réussite dans sa quête.
Oh, intéressant ça.
Peut-être pour ajouter une précision, shonen en japonais, ça veut dire... Jeunes garçons, adolescents. Donc, ce sont des BD qui sont des bandes dessinées qui sont plus ciblées pour les adolescents.
Ok, et l'équivalent féminin, parce que si on dit jeunes garçons, adolescents, alors je ne sais pas si c'est pareil, et pour l'équivalent féminin, ce serait
les shoujo.
Les shoujo. Alors, si vous avez envie de découvrir l'univers des shonen et des shoujo, il va falloir aller en librairie pour voir vos premiers opus, notamment Naruto ou
One Piece.
Suzanne, alors on va vous équiper d'un micro.
Moi, figurez-vous que rien ne m'intéresse dans vos propos.
Alors oui, mais tant que vous avez le micro, Suzanne, vous êtes l'aînée autour de la table, si je ne me trompe pas, bienvenue. Votre première bande dessinée?
Eh bien, attendez.
Ah, c'est pas grave. Alors, le temps que vous retrouviez un petit peu vos souvenirs.
Les dames en blanc.
Les dames en blanc. Alors, de quoi ça parlait?
Des infirmières en blanc.
Les infirmières en blanc. Eh bien, alors, j'irai voir. Hein, je ne connais pas du tout les dames en blanc. Shadia? Non, Pedzi. Ah non. Alors, allez-y.
On parlait de Pedzi, mais oula, c'est pas mon époque.
Pedzi, alors oui, mais ça, c'est JP, c'est Jean-Pierre qui vous a soufflé ou quoi?
Ma première bande dessinée. Pedzi
avec son
bol. Pingo et Ricky.
Avec son pot de confiture, non? Il n'y avait pas une histoire de pot de confiture?
Il y avait toujours des crêpes.
De crêpes? Oui, crêpes. C'était les crêpes.
Toujours des crêpes. Des montagnes de crêpes.
Joël, votre première bande dessinée, est-ce que vous avez comme ça un souvenir de la toute première que vous ayez lue?
J'ai de la chance d'avoir un grand frère et les Yakari. Les Gaston Lagaffe, Betsy aussi. Enfin, toutes ces BD-là, j'ai eu la chance de pouvoir les lire.
Ah, ça c'est bien. Est-ce que vous connaissez les Bob et Bobette? Parce que moi, ça a été les premières BD que j'ai eues en main, parce que ma tante du côté de mon papa était belge. Et puis, elle m'avait offert une première BD qui s'appelait Bobé Bobette. Ça vous dit rien? Bon, alors, c'est pas grave, mais vous pouvez aller voir, il y a au moins 20 ou 30 petits dessins, et enfin, bandes dessinées, si ça vous dit de découvrir, allez voir Bobé Bobette. En tout cas, on arrive gentiment à la deuxième partie de notre émission. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte un court instant. Il est exactement 15h55 sur Pavillon Nomade. On se retrouve après une musique qui s'intitule « Petite Marie » de Francis Cabrel.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile, ton toit, le vent de la nuit froide, me renvoie la ballade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
En nomade, le direct.
Le direct depuis les studios de Pavillon Nomade, il est 16h tout pile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui revient chaque année, parfois avec le sourire, parfois avec quelques petites angoisses. Et oui, le 20 août, dans le canton de Vaud, c'est la rentrée scolaire. D'ailleurs, rentrée scolaire qui a déjà, dans le Valais, pardon, rentrée scolaire qui, dans le canton de Vaud, je voulais dire, a commencé déjà depuis lundi. Ils ont eu déjà quelques jours d'avance. Après plusieurs semaines de vacances, de grasses matinées, de journées à la plage ou simplement de moments passés en famille ou entre amis, il faut ressortir les cartables, retrouver les cahiers, préparer les affaires et surtout remettre le réveil, ne pas l'oublier. Pour certains, la rentrée est synonyme de retrouvailles avec les copains, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Pour d'autres, elle peut être source de stress, d'inquiétude ou simplement de fatigue. On va aborder ce thème autour de notre table de Pavillon Nomade. D'ailleurs, la rentrée, ça représente quoi pour vous ? Ouh, question. On a vu des yeux presque levés au ciel. Soit si c'est des bons ou des mauvais souvenirs, Joël.
Les bouchons sur la route.
Les bouchons sous la route, c'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que tout le monde part travailler en même temps, ils déposent leurs gamins, ils sont tous à moitié fâchés. Et puis voilà, la rentrée, c'est souvent synonyme de ça.
Souvent synonyme de ça. Gabriel?
Le retour des emmerdes.
Le retour des emmerdes, c'est-à-dire?
Il y a beaucoup de choses à préparer. C'est un stress partagé avec les enfants. En effet, les trajets scolaires, puis des choses à préparer, communiquer avec l'école, les fournitures scolaires à acheter, à trouver les bons cahiers de la bonne taille, avec la bonne taille des carrés dedans, etc. etc.
Et en parlant de fournitures scolaires et de cahiers, moi je dois quand même dire, c'est pas normal qu'on demande aux parents de devoir plastifier et coller les protections des livres. Pourquoi ils font pas ça à l'école d'ailleurs, Elvio ou Suzanne d'ailleurs? Alors Suzanne, on vous donne la parole en premier, puis on la donnera à Elvio. Allez-y Suzanne.
Mais vous êtes parents, vous allez faire ce travail. Puis c'est tout, c'est votre responsabilité des enfants. C'est pas l'école. Et l'école est faite pour apprendre aux enfants, mais l'éducation, c'est vous. Donc, ça englobe énormément de choses et vous devez être à même de les faire.
Alors, on a déjà un premier avis. On va avoir d'autres. Je pense qu'on va avoir un débat aujourd'hui autour de ce thème. Et après, on aura Carmen Elvio.
Alors, de ma génération, en fait, on devait arriver avec nos rouleaux à l'école. Nos rouleaux de papier et tout, et on devait faire, on passait justement une journée en tout cas à plastifier nos carnets nous-mêmes en fait. On voulait nous responsabiliser de notre fourniture de matos en fait à cette époque-là.
Bah, responsabiliser, puis aussi peut-être développer un peu plus
la motricité.
La motricité fine de voilà, comment on voilà. coupe. De voilà. comment on fait attention. Mmh. On a aussi des choses à apprendre, mais le débat est ouvert. On a déjà d'un côté le côté peut-être très montessorien de on apprend aux enfants à pouvoir être autonome et à faire les choses que de faire pour nous. Et puis on a le versus de on est parents, on doit assumer jusqu'au bout et les tâches et tout ça. Qu'en dit Carmen? Bonjour Carmen, rebonjour.
Rebonjour. Disons que je suis du côté un peu tempéré. On va dire, je suis le fruit montessorien parce que nous, on plastifiait nos livres nous-mêmes et on adorait ça en fait. On faisait, on va dire, des concours pour savoir qui a le mieux plastifié. On aimait beaucoup à l'époque.
Ouais, alors faire le concours, et d'ailleurs peut-être ça évite de se faire enguirlander, hein, parce que petits les enfants, alors c'est vrai quand ils sont tout petits on va pas leur demander de faire à 4-5 ans, c'est difficile, puis en plus ça ressemble à rien, toutes les pages sont collées ensemble, mais quand ils ont commencé à être un peu plus grands puis qu'ils voulaient pas le faire, c'était oui mais papa, est-ce que tu faisais normal, regarde il y a des bulles là, je peux vous dire que l'année d'après il y avait eu 15 000 bulles mais c'était pas de ma faute. Gabriel?
Alors oui, moi j'étais fasciné par ce moment où ça faisait râler ma mère parce qu'il y avait tous ces livres d'anglais, etc. Et puis après j'étais quand même assez fier parce que quand je revenais à l'école, je trouve que c'était quand même pas mal fait parce qu'il y en a, c'était assez moche. Et c'est vrai qu'il y avait un petit concours, tu vois, déjà toi, est-ce que c'est fait? Non, c'est pas encore fait. Donc déjà on se faisait peut-être un peu engueuler par les enseignants. Et puis oui, c'était plus ou moins bien fait. J'avoue que moi j'ai jamais réussi à le faire comme il faut.
Bon, on a commencé par les livres, les fournitures qui étaient pour certains un bon moment, pour d'autres un moment difficile. Mais qu'est-ce que vous aimiez à l'époque ou qu'est-ce que vous aimez quand on a des parents autour de la table, hein, vous avez tous été à l'école, on a tous été à l'école. Dans vos souvenirs, qu'est-ce que vous aimiez à la rentrée scolaire et pourquoi? Alors, Gaëlle. Les repères de l'école. La reprise de l'école. Vous aimiez, mais qu'est-ce que vous aimiez dans la reprise de l'école?
Maman, à l'école.
Parce que, j'ai pas saisi le premier.
Maman, Lilane, qui est décédée, j'étais à l'école avec elle.
Ah, vous retrouviez des amis à l'école, c'est ça?
Et maman, et votre... Lilane, aussi.
Et votre maman aussi qui vous emmenait à l'école. Vous avez ce souvenir, si j'ai bien compris, hein, désolé.
Avec papa.
Le souvenir que vous aviez, c'était quand il vous emmenait à l'école et qu'il vous accompagnait à l'école, oui. D'autres souvenirs ? Carmen. Et après, on...
Disons que moi, mes souvenirs, c'était plutôt la veille parce que je n'arrivais pas à dormir. J'étais très excitée de recommencer une nouvelle année. J'ai encore l'odeur des livres, des nouveaux livres, des nouveaux habits ou des nouveaux sacs. Moi, j'aimais beaucoup.
D'ailleurs, on va faire un petit aparté avant de redonner la parole à Suzanne. Vous avez parlé de sommeil. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Je me dis, le sommeil, il joue évidemment un rôle important dans la construction, on pourrait dire, cognitif ou de nos enfants, d'un être humain. Faut-il commencer à changer ses horaires quelques jours avant ou pas ? Comment on redonne le rythme à un enfant quand il est à l'école ? Parce que quand on parle de vacances et autres, souvent, bah, les enfants se couchent très tard, ils restent un petit peu plus longtemps à la, devant l'ordi ou ils sortent plus souvent le soir. Quelles seraient les bonnes pratiques ? Ou est-ce que vous avez comme ça ? Alors d'ailleurs, ça me fait penser qu'on aura après, avec Joe, les bons tuyaux qui suivra après notre chronique. Elle aura certainement de très bons tuyaux à nous donner. On a hâte aussi de d'avoir sa chronique. Mais comment on prépare une rentrée scolaire, vous qui étiez comme ça le lendemain, difficulté à dormir? Alors peut-être qu'il y avait cette problématique de dire c'est la rentrée, je ne sais pas quel prof j'aurai, c'est source d'anxiété certainement. Mais comment on doit et comment on peut faire pour permettre aux enfants de retrouver un rythme?
Ce serait bien de faire de manière progressive, environ 3 jours avant, reprendre un peu un rythme, on va dire, scolaire. C'est ce qui est préconisé normalement pour tout, on va dire quoi, changement d'habitude de sommeil.
Et c'est quoi un rythme scolaire? Parce que finalement, pour ceux qui nous écoutent, ils nous entendent, oui, ben, on va retrouver le rythme scolaire. Mais c'est quoi un rythme scolaire? Joël?
Ben déjà, d'aller se coucher plus tôt, le soir. Ça, c'est ce que mes parents faisaient souvent. On nous envoyait au lit à 8h30. Pour ensuite le réveil le matin, et ce déjà presque une semaine avant, de reprendre, voilà, de regarder la série qui à l'époque c'était Madame est servie, et après Madame est servie, ben on allait dormir. Donc pour pouvoir après être justement pas à moitié endormi hein, le lendemain matin, grincheux, et puis on était quand même 3 à la maison.
C'était pas une
masse à faire. Hein.
Donc reprendre le rythme, c'est déjà commencer quelques jours avant, voire une semaine avant, ritualiser un petit peu le moment, hein, vous avez dit peut-être une série, redonner un petit peu un cadre qui permet aux enfants de, voilà, de reprendre une régularité qui leur permet d'être un peu moins fatigués le lendemain. Shadia, et après on laissera la parole à Gabrielle. Shadia.
D'accord. Il y a aussi le fait d'aller voir justement quelle enseignante on a. Il y a les listes et ça, pour être un peu rassurée. Je sais que mes parents, on allait voir. Et puis quand il y a un changement d'école ou ce genre de choses, c'était pas mal à se renseigner sur les choses. Et puis il y a aussi le matériel et puis peut-être prendre un petit peu des bases, des cours quelques jours avant comme ça. Gentiment.
Reprendre des bases, peut-être. Alors moi, mes parents me faisaient faire le passeport vacances. Hein, j'imagine que les plus anciens connaîtront. J'avais droit chaque été, avant la reprise, au passeport vacances. J'en garde un souvenir très difficile. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur allons voir en amont la liste, le prof qu'on aura. Est-ce que finalement, ça peut pas être source aussi d'anxiété? Parce que si on tombe sur le prof qu'on a entendu qu'il était le plus difficile, celui qui gronderait le plus, est-ce que finalement, ça va pas nous handicaper un peu plus à la reprise?
Alors, Shadia. Soi, je prends un point de vue d'enfant en soi. C'était pas tellement le prof qu'on allait regarder, mais justement la liste de classe et puis les amis.
Savoir si on allait retrouver le petit Kevin ou la petite Lucie qui nous avait fait tant sourire pendant l'année scolaire, on va dire comme ça. Gabriel?
Pour retrouver le rythme, déjà une nuit blanche à plastifier des cahiers, je pense que c'est une bonne idée.
Retrouver le rythme avec des nuits blanches à plastique, hein, les cahiers à plastifier. Oui, effectivement. On a parlé aussi tout à l'heure, je parlais de peut-être ritualiser devant un film et autres. Concernant les écrans, faut-il diminuer progressivement le téléphone, les jeux vidéo ou les réseaux sociaux avant l'entrée? Parce qu'on est quand même dans une ère aujourd'hui où j'ai des enfants, on en a quelques-uns autour de la table. Aujourd'hui, c'est quand même même partie dominante de, et des fois même surconsommée pendant les vacances. Quel est votre point de vue par rapport à ça, Elvio?
Je dirais que ce qui est préconisé, mais pour les enfants autant que pour les adultes, déjà au niveau des écrans en général, hein, donc que ce soit le portable, la télé, tout ça, c'est qu'à une heure avant le coucher, c'est stopper les écrans, en fait, pour pouvoir que le cerveau il puisse se mettre en condition de repos, de sommeil. Et c'est ce qu'il y a de génial aujourd'hui. Bon, j'ai une fille qui est au cycle, et il y a des applications qui nous permettent de couper complètement donc, la possibilité de pouvoir avoir accès à son téléphone. Et du coup, une heure avant de le coucher, comme ça, elle pose la chose, elle peut lire. D'ailleurs, la lecture est aussi préconisée pour entamer un sommeil apaisant.
Ben merci. Suzanne. Et après, on donnera la parole à Jean-Pierre. Suzanne.
Mais vous avez quoi avec vos téléphones? C'est de la... Il faut arrêter ce truc-là. Il faut arrêter ce téléphone. Non de bleu. Les enfants, il faut les élever autrement qu'en compagnie de ce téléphone qui vous fout la paix à vous-même. Oh.
Voilà, ça c'est dit. Jean-Pierre.
Non, mais tout d'un coup, ça me fait flash. Je me dis, mais plutôt que de regarder mon téléphone puis d'avoir des problèmes de sommeil, je ferais mieux de prendre un livre. Et c'est vrai que quand j'étais petit, je n'avais pas de problème de sommeil. Je lisais jusqu'à m'écrouler, mais des fois, je lisais sous la couverture hein, parce que je lisais beaucoup.
Avec la lampe de poche pour se cacher des parents. Fait. Alors finalement, toutes les générations ont eu leurs soucis qui ont fait que les enfants se couchaient tard ou pas. Mais on a beaucoup parlé des enfants de l'école, tout ça. Mais, et les parents dans tout ça, finalement, est-ce que c'est une liberté retrouvée que de voir ses enfants repartir à l'école? Parce qu'il y a toujours ce chagrin au moment où on va les emmener, où ils partent avec le sac à dos, surtout quand ils sont plus petits. Hein, quand ils arrivent les premières, dans les premières classes, on est un petit tiraillement. Mais finalement, est-ce que c'est aussi peut-être synonyme de vacances, enfin, pour les parents? Joël?
Oui, je pense aussi que c'est un petit peu synonyme de vacances, mais aussi, c'est aussi la discussion que vous allez avoir le soir au souper. Mais qu'est-ce que tu as fait à l'école? Qu'est-ce que tu as appris? Comment... Voilà, c'est un sujet de discussion.
Un sujet de discussion sur qu'est-ce que tu as appris à l'école, comment s'est passée la journée.
Ça a été la poésie, ça a été... voilà.
Gaël. Alors, je...
Parce qu'il pleut.
Ah, il pleut. Alors oui, c'est vrai. Alors, il pleut, ça fait du bien qu'il pleuve un petit peu. Ça va permettre de rafraîchir un peu le temps. Suzanne.
Jimmy, vous avez encore besoin de vacances?
Alors, si moi j'ai encore besoin de vacances, alors je peux vous dire que j'ai toujours besoin de vacances. Mais moi, sincèrement, personnellement parlant, si j'ai posé cette question-là, c'est que moi je le vis un peu comme des vacances. Parce que quand les enfants, suivant l'âge qu'ils ont, alors moi j'ai de la chance, ils arrivent gentiment, à un moment ils sont plus autonomes, ils peuvent se déplacer par eux-mêmes. Mais c'est vrai que qui dit vacances dit son lot de porter à droite, à gauche, aller les rechercher, repartir, c'est contraignant. Alors, je l'assume, j'aime mes enfants et je le fais avec grand plaisir. Mais c'est vrai que de les savoir maintenant à l'école, il y a un petit côté comme ça où je le vis personnellement comme un peu des vacances parce que je me dis, voilà, je sais où ils sont pendant la journée. J'ai pas besoin de me tracasser, de me dire, bah tiens, il m'a dit qu'il partait à la gouille, mais est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il est rentré? Non, je sais qu'il est à l'école. Alors, bien sûr, l'école buissonnière, ça existe. Les filles sourient parce que j'imagine qu'on est de la même génération et que c'est arrivé des fois, mais malgré tout, moi, ça me fait des vacances psychiques de les savoir à l'école. Je ne sais pas pour les autres comment... Nicole, bonjour.
Bonjour. Excusez-moi. Bonjour à tout le monde. Moi, j'étais une maman monoparentale. Mes enfants, maintenant, ils sont grands. Mais pour moi, que c'était les vacances ou que ce n'était pas les vacances, c'était toujours stressant. Parce que pendant les vacances, si on travaillait à 80% et on n'avait pas de ressources de grand-mère ou mère de jour, c'était complexe. Et aussi, quand ils allaient à l'école, quand ils devaient aller travailler, avant qu'ils allaient à l'école, il fallait les amener dans un endroit qui les amenait à l'école, qui les cherchait à midi, qui leur donnait à manger. Et il fallait surtout arriver le soir à l'heure, avant qu'ils fermaient, pour récupérer les enfants. Alors, c'est... Et là, on n'en parle pas des devoirs et tout ça. Alors, les vacances ou pas les vacances, ça restait quand même sportif.
De toute manière, qu'ils soient à l'école ou pas à l'école, vous avez raison, des enfants, tant qu'ils sont en bas âge, et même après, hein, ça reste sportif. Vous avez raison, Joël. Ah non, alors...
Oui, surtout les familles monoparentales, c'est quand même super sport, quoi. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de mamans solo, voire même des papas solo maintenant, ou qui partagent la garde des enfants. Et c'est vrai que quand vous travaillez dans le commerce ou dans l'hôtellerie, ou, c'est vraiment difficile de pouvoir aller les récupérer à 4h15, de pouvoir envisager pour qu'ils puissent aller dîner quelque part. Maintenant, il y a la cantine, heureusement, ça commence.
Alors,
vraiment
c'est vrai, il y a la cantine, l'UAPE, ouais. Où on peut...
Mais moi quand j'étais gamine, je suis désolée, il n'y avait pas de cantine. Non. C'était maman qui faisait à manger à la maison. Donc, heureusement que maintenant, il y a les cantines et en plus l'aide aux devoirs entre midi et une heure, parce que c'est vraiment pas évident, surtout pour des parents solo, de pouvoir gérer tout ça.
Oui, c'est vrai. Heureusement, aujourd'hui, on a un petit peu plus de soutien et d'aide d'associations, de mamans de jour, l'UAPE notamment. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc, on avait quand même, pour ceux qui avaient la possibilité d'avoir des familles, et des proches, des oncles, des tantes, des grands-parents, mais tout le monde ne l'avait pas. Et ça devait être effectivement compliqué de jongler entre travail, rythme scolaire, activité scolaire, hein, parce qu'on parle aussi des activités scolaires. Donc, pas évident. Suzanne.
Eh ben, moi, je vais vous dire que mes enfants, ils n'ont jamais eu la clé autour du cou et que j'étais horriblement malade et que mes enfants, ils rentraient de l'école. Maman était là, le goûter était prêt, le dîner était prêt, le souper était prêt, tout était prêt, malgré la maladie de maman.
Eh bien oui, on peut avoir une belle pensée pour elle et puis pour toutes les mamans et papas qui, malgré les difficultés de tout ordre, hein, que ce soit sociale, financière, psychique, qui malgré tout arrivent à concilier tout ça en même temps et de continuer à éduquer et accompagner leurs enfants. Pour finir sur une petite touche, avant qu'on parte sur les Joe les bons tuyaux qui sera en lien avec aussi le thème de aujourd'hui, un souvenir d'enfance, de l'école. Si vous deviez ressortir comme ça un souvenir, un bon souvenir d'école, ce serait lequel? Alors, je ne sais pas. Alors, Nicole.
Les excursions d'école.
Les sorties scolaires. Ouais.
Scolaires.
Alors, est-ce que vous en avez une en tête?
Oui, je me rappelle. Moi, j'étais. Mes enfants, ils m'ont mis en pensionnat en Suisse alémanique. Et on était à Einsiedeln. On était voir un spectacle qui a lieu que tous les 10 ans. Et une exposition, même quand j'étais jeune, une exposition de Anker, quand il avait, c'est un peintre suisse allemand qui peigne la réalité de la vie. Et en fait, depuis là, j'aime toujours ces petites, les cheveux tressés et après fait des petits escargots au-dessus des oreilles. Et au-dessus de la tête, c'est un petit peu comme dans le style Biedermeier. Et c'était ces deux spectacles qui m'ont fascinée.
Ah bah c'est un joli souvenir.
Et j'étais jeune, j'avais 13-14 ans. On m'a mis à 12 ans et demi dans une école privée.
Ah bah, joli souvenir. Elvio.
Alors ça se rapproche un peu à Nicole, mais quand j'étais au cycle d'orientation, du coup on avait deux profs de sport qui étaient extraordinaires, je leur rends hommage d'ailleurs, à Janine et puis à Roger. Ils organisaient souvent en fait en extrascolaire des week-ends randonnées, des week-ends de sport, des week-ends et c'était vraiment leur propre initiative et ça a beaucoup apporté à ce que, entre nous, les élèves qui participions, ça nous fédérait énormément et ça permettait d'avoir une ambiance de classe qui était encore plus forte. En fait.
Bah, joli souvenir. D'autres souvenirs autour de la table, de souvenirs d'école, de bons moments à l'école dans son enfance, Gabriel.
Sortie scolaire, on est allé voir le film Christophe Colomb et j'étais à côté de Cécile Grand-Clément et c'était ma seule occasion de pouvoir discuter avec elle de l'année. Voilà, très bon souvenir.
Ben voilà, elle se reconnaîtra peut-être si elle nous écoute ou si elle écoute la rediffusion. D'ailleurs, un Pavillon Nomade est rediffusé sur pavillonnomade.ch. Vous retrouverez l'émission en entier. Gaëlle, souvenir.
Le Bouvray, les
sorties au Bouvray. Ouais. Alors, on a comme ça quelque chose, en tout cas, ce qui en sort le plus. Alors, ce n'est pas le cours de maths, ce n'était pas le cours de sciences, mais c'est les sorties scolaires. Quand même, en tout cas, ça fait foi autour de la table. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous. La rentrée scolaire, ce n'est finalement pas uniquement retourner à l'école. C'est aussi recommencer quelque chose, retrouver des personnes, faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouvelles choses et parfois relever de nouveaux défis. Et surtout, il est important de se rappeler qu'il est parfaitement normal d'avoir un peu d'appréhension. On peut être heureux de retrouver ses copains et même en même temps avoir peur de cette nouvelle année. Alors que vous soyez élève, parent, enseignant ou simplement nostalgique de vos années d'école, nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée scolaire. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous adapter et surtout n'oubliez pas le réveil de demain matin. Voilà, on va enchaîner direct avec notre magnifique rubrique de Joe les bons tuyaux, Loïs qui a la technique. Je te remercie.
Joe, les bons tuyaux.
Alors, vous avez déjà dit pas mal de choses, mais actuellement, on a de la chance quand même que les fournitures scolaires sont délivrées par les écoles, en tout cas dans le district de Monté. C'est quand même une super bonne chose parce que ça évite aussi aux familles d'aller courir les magasins pour acheter les fournitures scolaires. En tout cas, là, tout ce qui est petite fourniture. Mais vous avez quand même des achats à faire. Donc, pour les loisirs, la gym, la piscine et autres activités manuelles. Il vous faudra acheter les pantoufles, les vêtements de sport, jogging, basket, pantoufles de gym, affaires de piscine, maillot de bain, le bonnet, les linges, ainsi que la trousse et les sacs de sport et d'école. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est deux magasins à monter de deuxième main. C'est Créature, donc dans Centre Agora, et en dessous, ça s'appelle l'école des parents. Ils ont des très belles choses, c'est lavé, désinfecté, raccommodé. Vous trouvez de tout, des chaussures aux accessoires et aux vêtements donc pour la ville, à des prix très, très concurrentiels. Ce n'est pas du tout neuf, mais il y a quand même des belles marques. Ça, c'est, je sais pas, parce que j'y vais de temps en temps. Ensuite, il y a Internet, les réseaux. Donc, vous avez plein de groupes de parents qui échangent ou vendent à tout petit prix donc, des affaires d'école, notamment pour la gym, les baskets, toutes ces choses-là. Il y a aussi des sites de vente, des déchetteries. Il parle ça de déchetterie, mais ce n'est pas tellement une déchetterie parce que le petit Guillaume, c'est devenu le grand Guillaume. Et puis, y a une maman qui offre deux sacs complets avec plein de jeans, avec plein de trucs. Ça peut être très, très économiquement très, très, très sympa. Voilà. Je vous souhaite aussi à tous une très belle rentrée et surtout beaucoup de succès à tous les enfants.
Merci Joël pour ces bons tuyaux. Hein. On en a pour notre argent, comme on pourrait dire, hein, parce que tous les endroits que vous avez cités sont des lieux qui permettent effectivement de faire attention au non-gaspillage, de faire du bien au porte-monnaie. Et puis, tant qu'on est dans les bons tuyaux, je vais vous en donner un pour ceux qui ont horreur de plastifier eux-mêmes ou de le faire à leurs enfants. J'ai appris qu'on pouvait, il y a malheureusement trop tard, hein, qu'on avait la possibilité maintenant d'aller à Manor. Il y a des étudiants, des gens qui, bénévolement, on arrive le matin avec sa pile de livres et on revient le soir et tout est plastifié et tout est fait et gratuitement. Donc, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, cas, l'année passée, ça existait encore.
Mais il n'y a pas un lien avec une association?
Alors, c'est possible.
Parce
c'est...
que après, vous pouvez donner pour une association, oui. Parce que gratuit, ça peut...
Oui, alors, voilà. Bien sûr, alors, il y a toujours la possibilité de faire un don. En tout cas, je ne sais pas si à Manor, à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas la possibilité de faire un don, mais je sais qu'on pouvait déposer là. On a aussi Jean-Pierre qui a envie de nous mettre peut-être aussi deux sites importants en cette année scolaire qui reprend.
Oui, alors en rapport justement avec l'esprit critique, particulièrement intéressant pour les enfants, il y a la chaîne YouTube Hygiène Mentale. C'est un enseignant qui travaille avec des enfants du primaire, où il explique, mais c'est très bien aussi pour les adultes, il explique très très bien les choses, comment justement affûter son esprit critique. Et puis une autre chaîne qui est plus pour les adultes, je trouve, c'est La Tronche en Biais, qui est hyper intéressante aussi, qui montre tous les outils de l'esprit critique, comment appliquer la méthode scientifique aux choses de la vie, quoi.
Eh ben merci pour tous ces jolis petits tips. On se quitte un court instant après une magnifique chanson de Lefa, Tu grandis si vite. Alors je sais pas si Sadia, vous avez envie de faire une dédicace de cette chanson. Si oui, à qui?
À peu près les enfants que toute ma famille a gardés, puisqu'ils étaient que ma maman est maman de jour, donc il y en a pas mal. Et justement, on les voit grandir et ça. Et aussi aux enseignants qui, quand même, passent beaucoup de temps à enseigner et puis parfois à aider un peu plus. De nos bons souvenirs.
Bah, vous avez raison. Je me joins à vous, à toutes les mamans de jour, à toutes les associations, à tous les parents, à tous ceux qui font que notre jeunesse évolue de belle manière. Tu grandis si vite, de Lefa.
Je me souviens de toi, de tes premiers mois. T'as grandi trop vite, grandi trop vite. Je suis fier de toi, depuis tes premiers pas. Grandi trop vite, t'as grandi trop vite. Je me souviens de toi, de tes premiers mois. T'as grandi trop vite. Je suis fier de toi, depuis tes premiers pas. Grandi trop vite, t'as grandi trop vite. 28 novembre 85, t'étais si petit, si fragile. On a inversé les rôles, maintenant c'est toi qui t'occupes de moi, c'est moi qui te fatigue. Tu finissais jamais ton assiette, te faire manger était un casse-tête. Et t'étais maigre comme un clou, mais à l'école ça t'empêchait pas de faire le clown. Ta première paire de baskets, je t'ai appris à faire tes lacets. Quand je te vois j'ai l'impression d'être un ancêtre. J'ai pas vu les années passer, faut que je l'accepte. Tu n'étais qu'un môme, j'ai tourné la tête un moment. Et tu es devenu un homme, c'est un honneur. Je savais que le temps me ferait souffrir. Effectivement, je ne t'ai pas vu grandir. Je me souviens de toi, de tes premiers mois. T'as grandi trop vite, je suis fier de toi, depuis tes premiers pas. Grandi trop vite, t'as grandi trop vite. Je t'ai nettoyé, t'as fait des conneries, j'ai aboyé. Aujourd'hui j'entends les gens te vouvoyer. T'appelais Monsieur Fall, t'as fondé ton propre foyer. Comme moi, t'as choisi la musique. Je savais que t'avais du talent, je le sentais. T'as bossé du matin au soir comme à l'usine. Avec tes amis, vous avez conquis la France entière. Tu n'étais qu'un môme, j'ai tourné la tête un moment. Et tu es devenu un homme, c'est un honneur. Je savais que le temps me ferait souffrir. Effectivement, je ne t'ai pas vu grandir. Je me souviens de toi, de tes premiers mois. T'as grandi trop vite. Je suis fier de toi, depuis tes premiers pas. Grandi trop vite, t'as grandi trop vite. Je ne t'ai même pas vu grandir. Tu es de...
merde, votre truc.
Science-fiction.
C'est pas ta faute.
La psy, le ciné, les psys, c'est raconté, le ciné, c'est raconté, le ciné, c'est mon psy, mais Gab, c'est n'importe quoi. C'est de la fiction, oui, c'est de la fiction, c'est de la science-fiction. La psy, les psys dans le cinéma. À chaque chronique, je vous présente un psychiatre, un psychologue ou un soin dans le cinéma. Alors aujourd'hui, I see dead people. En français, je vois des gens qui sont morts. Alors, c'est pas moi qui parle, ce n'est pas une information personnelle, c'est la phrase pour introduire le film et le psy dont je vais parler aujourd'hui. Donc, c'est le docteur Malcolm Crowe, qui est psychologue pour enfants et adolescents, et spécialement pour les troubles anxieux et les difficultés de communication. Alors, autant vous le dire tout de suite, celui-là, il est bon. C'est un modèle au cinéma, il est même hyper sympa. Bon, il a l'air un peu triste, il est un peu austère, il parle doucement, il tolère les silences, il est capable de doser un petit peu d'humour léger, juste un peu de second degré pour bien aborder les jeunes. Bon, on sait d'avance que c'est pas Jimmy, donc. Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous voyez quel film c'est, peut-être ? Ah, très bien, j'en ai déjà, parce que si jamais j'avais un autre indice, donc il est habillé tout le temps pareil, de façon très très sobre. Et oui, pour ceux qui le savent, c'est le personnage principal du film Le Sixième Sens, qui est sorti en 99, gros succès à l'époque, 6 nominations aux Oscars, deuxième plus gros succès cette année-là. Et le I See Dead People, il est classé 44e parmi les plus grandes répliques du cinéma américain, pas par moi, mais par le American Cinema Institute. Alors, pourquoi je vous en parle ? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que c'est enfin un psychiatre dans un film qui n'est ni fou ni malfaisant, qui prend le temps d'écouter, qui propose sérieusement, avec technique, de revenir sur le vécu de son patient. Il y a un mélange d'inspiration psychodynamique, de thérapie narrative, d'approche centrée sur le patient. Et bon, la deuxième, il est super, mais il n'avait absolument rien compris à ce qui se passait. Je vous raconte la fin du film. Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas vu. En fait, le jeune homme qui suit depuis le début n'était pas du tout halluciné. Il n'avait pas du tout, il n'était pas du tout psychotique. C'est juste que le psychiatre lui-même était mort depuis le début. Et ça, bon, ben, du coup, ce n'est pas le bon diagnostic, ce n'est pas les bonnes conclusions et ce n'est pas le bon traitement. Alors, comme excuse, c'est facile. La première, c'était un pédopsie, donc c'est normal qu'il se plante. Et la deuxième, c'est que nous aussi, quand on a vu le film, on a dû le voir jusqu'au bout pour comprendre l'intrigue. Autre petit problème, et là c'est la partie sérieuse, assez vite, il conclut que le patient a des hallucinations. Et ça, on peut quand même lui reprocher. C'est un problème aussi, c'est que c'est un pédopsie, mais il va suivre un enfant sans jamais rencontrer les parents. En même temps, les parents ne le voyaient pas. Sans lui demander s'il a des frères et des sœurs. Je pense que dans le film, il ne sait même pas dans quelle classe est l'enfant et s'il a fait la rentrée cette année ou pas. C'est la partie la moins réaliste du film. Ça et le côté fantôme, bien sûr. Je reviens aussi juste sur un détail que je trouve assez rigolo. C'est que dans le film, donc, il est habillé de la même manière du début à la fin. Alors, moi aussi, je trouvais au début, quand j'ai vu que c'était réaliste par rapport à un psychiatre, mais pas du tout, en fait. C'est juste que ce sont les habits qu'il portait au moment où il est décédé. Alors, la prochaine fois que vous allez être en séance, comme éventuellement moi, vous allez voir votre psy, vous allez vous demander s'il n'était pas déjà habillé comme ça la dernière fois. Alors, comme conclusion et comme enseignement pour les soignants en général, et là, je reprends la casquette de spécialiste clinique, je dirais que être sympa et avoir un excellent relationnel, ça n'empêche pas de faire des bêtises et qu'il faut avoir un cadre clinique un peu mieux foutu parce que rater qu'on est mort, c'est quand même assez gros. Donc, même si à la fin, il conseille de façon très pertinente à Cole, donc l'enfant, d'écouter les morts plutôt que de les fuir, moi, ce que je retranscrirais, c'est de plutôt s'écouter, du coup, dans la réalité, d'écouter ce qui ne va pas, de se confronter à ce qui ne va pas, plutôt que de le fuir. Il faut quand même imaginer que le héros principal est un fantôme qui a fait flipper un enfant de 11 ans pendant tout le film. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.
Et merci beaucoup pour cette rubrique. J'ai cru un instant qu'on avait un jingle de fin, mais en fait, non, c'est pas grave. C'est dans ma mémoire à moi. Et en parlant de mémoire, est-ce que tout le monde a vu ce film autour de la table ? Parce que 99, je dis, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, est-ce que depuis 99, j'imagine, ça fait quand même déjà quelques années, qui a vu ce film ? Ah, on est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à avoir vu ce film. Elvio.
Moi, j'ai une question à Gabriel. D'habitude, je crois que vous notiez les psys.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà.
Bon, alors, je vais réfléchir. Algorithme particulier. Voilà. Moi, je lui mettrais quand même un 8 sur 10.
Ah, oui. 8 sur 10. Mais moi, j'ai envie de donner la parole à Carmen. Carmen, qui est aujourd'hui avec nous, qui s'est présentée tout à l'heure, médecin assistant ici à l'hôpital de Malévaux. Quand vous avez vu le film et que vous avez pu entendre la rubrique de Gabriel, qu'est-ce que ça évoque chez vous ?
Ça évoque des souvenirs parce que je connais la phrase fétiche, en fait, c'est une phrase légendaire dont j'ai reconnu directement le film. Et disons qu'à l'époque, j'étais quand même assez jeune, donc je ne voyais pas toute la portée du film, en fait. Mais c'était un très bon divertissement à l'époque.
Et c'est, je ne sais pas, vous, dans votre parcours personnel et professionnel, vous allez vous diriger vers la psychiatrie, dans le domaine de la psychiatrie, ou plutôt la somatique ?
Non, non. J'ai déjà un diplôme de psychiatre ivoirien. Mais voilà. Je change d'habit.
Mais vous changez d'habit, oui. Alors vous avez raison de le dire. Mais est-ce que ce film, est-ce que c'est des films aussi que vous avez peut-être vus plus jeunes, qui, comme celui-là, vous ont donné peut-être l'envie de découvrir et d'aller dans ce domaine-là ou pas du tout ?
Disons pas du tout. Dans mes souvenirs, en fait, il était policier. Donc c'est...
Alors, oui, à l'origine, il devait être photographe. Et puis, il y avait une histoire un peu absurde où il prenait des photos et puis il voyait des trucs, etc. etc. Mais ça ne tenait pas debout. C'était beaucoup plus réaliste avec un pédopsychiatre.
Et est-ce que vous allez vous diriger vers la psychiatrie adulte, de la personne âgée, de l'enfant ? Là, on parle de psychiatre, mais de pédopsychiatre ?
Plus adulte.
En tout cas, moi, je peux que vous souhaiter un très bon parcours dans l'équivalence, hein, parce que si j'entends bien, vous êtes psychiatre déjà, et certainement qu'il y a des équivalences à faire ou un parcours à refaire. Vous êtes gentiment à la fin de votre parcours où il y a encore
un mi-chemin.
Donc, on peut que vous souhaiter, parce que c'est pas votre rentrée scolaire non plus, mais presque, on pourrait dire, on peut que vous souhaiter plein de bonnes choses. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
Notre
beaucoup.
Émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos participants du jour. Un grand merci à Loïs à la technique. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte en musique avec la musique de Paul McCartney qui s'intitule Live and Let Die.
When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
sunlit dive.